Jules et Marc et moi, l'envers des récits de la naissance du Christ. Alors, cela me permet de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard qu'à Noël de cette année, où, ne prêchant pas à Noël, j'ai fait un certain nombre de visites. Certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire. Et j'ai visité nos paroissiennes les plus âgées qui ne peuvent pas évidemment se rendre au culte de Noël. Et comme un pasteur plein de bonne volonté, je leur ai proposé de leur relire le récit de la nativité. Alors il y en avait une qui avait été l'épouse d'un pasteur pendant des années et des années, elle était veuve. L'autre qui avait fait son instruction religieuse à Saint-Pierre avec Jean de Saussure, et puis la troisième qui avait été épouse d'un conseiller de paroisse et qui avait vraiment usé ses culottes sur les différents temples du canton. Et toutes les trois, quand je leur ai proposé de leur raconter ou de leur relire le récit de la nativité, m'ont dit « surtout pas ». D'abord, on le connaît par cœur, et puis si vous croyez qu'on y croit encore à ces histoires d'anges, qui parle aux oreilles des femmes, d'enfants qui naissent de femmes vierges, de mages qui viennent comme ça des pays d'Orient, eh bien, vous trompez. On a passé l'âge de croire à ces histoires que l'on raconte aux enfants. Et j'étais très stupéfait parce que je me suis rendu compte que ces dames qui étaient venues à l'église pendant toute leur vie et qui avaient eu une instruction religieuse, en fait, ignoraient tout de la manière dont avaient été composés et écrits les récits de la naissance du Christ. Et j'étais véritablement interloqué, parce que c'est là que j'ai pu voir l'écart qu'il y a entre, finalement, ce qu'on nous apprend à la faculté de théologie et ce que savent les catéchumènes auxquels on s'adresse. Alors voilà, alors avec Marc, on s'est dit, on va travailler, et on va travailler sur les textes. C'est la raison pour laquelle ce soir, vous avez des tables devant vous, parce que on vous a préparé les textes comme vous ne les avez jamais vus ou lus dans votre Bible, c'est-à-dire vous avez là tout le récit de la naissance du Christ depuis le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu jusqu'au chapitre 2 à la moitié sur une page, avec les notes qui vous donnent un certain nombre d'informations historiques, critiques sur la manière dont sont composés ces récits. Donc ça, c'est celui de Matthieu. Et puis l'autre, évidemment, chez Luc. Alors le récit de Luc est beaucoup plus ample. Je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai indiqué, quand je n'avais pas pu mettre les textes, les références des récits qui manquent. Et vous pourrez, quand vous serez rentré chez vous, reprendre l'évangile de Luc et lire en entier les quatre premiers chapitres. Vous verrez, c'est vite fait et c'est absolument passionnant. Avec Marc, j'ai encore découvert, en préparant cette rencontre, que la généalogie chez Luc est située à un endroit à laquelle je ne la voyais pas du tout. Donc vous voyez, même après 20 ans de travail pastoral, 5 années d'études de théologie, on peut relire encore ces textes et découvrir qu'en fait, on les connaît si peu. Alors, évidemment, ce soir, on ne va pas pouvoir tout vous dire sur ces récits, mais on a choisi avec Marc de vous donner des flashs et surtout de vous apprendre comment lire une Bible avec des notes et comment comprendre comment ces récits sont écrits à l'aide simplement des indications qui figurent sur vos Bibles. Voilà. C'est compréhensible ? Donc c'est un travail un peu inhabituel, mais vous nous direz si c'est facile, difficile, et on compte sur vous pour nous interrompre. Et voilà. Alors, dans un premier temps, je vais quand même vous donner ces deux textes, et je vais vous faire aussi une petite explication de lecture. Parce que je vous ai indiqué les notes qui se réfèrent aux lettres alphabétiques qui sont dans le corps du texte de l'Évangile. Et là, quand c'est noir, c'est le texte de l'Évangile qui est écrit, et quand il n'y a pas de trait ici, ce sont les notes Vous comprenez ? Donc, pour lire le texte à la suite, ça s'arrête ici et vous reprenez là. Et toute cette partie concerne les notes qui sont ici. Vous comprenez ? Voilà. Bon. Alors, il faut chacun prendre une page et Luc est marqué et l'autre c'est Matthieu. Peut-être une fois que vous aurez tous ces pages sous les yeux, je vais vous donner encore quelques. C'est un travail très inhabituel qu'on fait ce soir, hein, et très assez scolaire, mais je pense que c'est quand même ça s'impose après les visites, parce que j'aimerais pas qu'à 90 ans vous voyez le pasteur qui arrive et puis que vous lui disiez, écoutez, non seulement on connaît ça par cœur, mais en fait on n'y comprend rien et puis on n'y croit pas. Voilà. Pardon ? Mais je leur ai promis une visite avec mes feuilles et tout, voilà. Donc, j'aimerais que vous preniez tous la feuille généalogie de Jésus-Christ. Ça vient ? Ne vous embrouillez pas dans les feuilles, s'il vous plaît, merci. Si, j'en ai préparé 25 et on est moins. Mais vous comprenez pourquoi il y a des tables ce soir. Hein? Voilà. Est-ce que vous voulez des stylos? Marc, dans mon bureau, qui ouvre avec ça la porte, c'est à cet étage qui ouvre la porte. Ah, il y en a pas là-bas. Ici?
Et la deuxième thé.
Alors, qui a besoin de crayon ?
Super. Voilà. Alors, ça, vous connaissez tous ? C'est la traduction œcuménique de la Bible dans la version 1970, hein, donc elle est vieille déjà. J'ai pris de là. C'est une photocopie qui est prise de ces textes. Alors, vous avez le texte Généalogie de Jésus-Christ et toute cette page. Bon. Alors, vous avez le corps du texte qui commence à Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, etc. Et vous avez des petits A, B et C, D, etc., etc. Ça renvoie aux notes. OK ? Bon, ça c'est très clair. Plus compliqué, toutes les références qui sont à gauche dans la marge du texte. D'accord ? Donc, toutes ces références, alors un CH, alors évidemment, il faut connaître un petit peu ces références qui sont élémentaires pour des théologiens, mais qui ne sont peut-être pas évidentes pour vous. Dans toutes vos Bibles, vous avez normalement un index. Et quand vous avez un CH, eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez chercher l'index, c'est Chronique. GN, Genèse, bravo. Voilà. RT 4, Ruth, voilà, etc. Donc, cela vous indique, vous comprenez tout de suite, quand vous ouvrez votre Nouveau Testament, votre évangile, au premier évangile, qu'il est composé avec des références qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Bon, vous le savez tous, sauf que ici, les passages qui vous sont indiqués vous permettent de retrouver de qui on parle dans la généalogie. Donc, vous avez toute une liste de noms. Si vous voulez connaître l'histoire de ces personnes, vous vous référez à votre Ancien Testament aux références indiquées. Et ainsi, vous avez non pas simplement une liste de noms, mais qui sont ces personnes ? Bon. Ça, c'est extrêmement important. Et vous avez aussi... alors là, on passe dans la deuxième colonne, par exemple, ici, vous voyez. Et là, vous avez à droite, en marge, des LC 1:31, 2:21, AC, voilà. Ce sont les références de l'Évangile, d'accord ? Donc, ça veut dire que les textes se répondent les uns les autres. Et pour savoir comment, pourquoi c'est écrit, ou si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vient faire Tamar dans cette histoire, eh bien, vous ouvrez votre Bible et vous allez lire l'histoire de Tamar. C'est bon ? Voilà. Alors, je vous donne un petit exemple pour vous montrer que vous pouvez tous devenir d'excellents prédicateurs le dimanche. Vous allez prendre, bon, on commence généalogie de Jésus-Christ et ça commence livre des origines de Jésus-Christ. Et vous allez prendre juste le petit B et je vous lis simplement ce qui est écrit sur l'expression qui commence l'évangile de Matthieu, livre de la Genèse de Jésus-Christ. Écoutez bien, en calquant ce titre sur celui qui commence le récit de la descendance du premier homme, Genèse 5.1, voici le livre de la Genèse d'Adam, voici le livre de la Genèse de Jésus-Christ, voici le livre de la Genèse d'Adam, vous voyez que c'est exactement la même formule, et Matthieu, qui était un juif qui connaissait son Ancien Testament par cœur, reprend mot pour mot cette expression qu'on retrouve en Genèse 5.1, Matthieu suggère ainsi que Jésus, en ouvrant le livre d'une nouvelle Genèse, d'un nouveau commencement, Genèse, c'est commencement, prend la place d'Adam. Conférence Luc 3.38, c'est exactement ce que Luc 3.38 va vous dire. Cependant, et c'est ça qui distingue l'Ancien du Nouveau Testament, l'histoire ici rapportée est celle non de sa descendance, parce qu'on va vous raconter la descendance d'Adam, mais de son ascendance. En Jésus, l'histoire passée d'Israël, et là vous reprenez ici, hein, trouve son sens, et etc., etc. Ensuite, sur le rapport de la généalogie de Matthieu avec celle de Luc, eh bien, les éditeurs de la Tobe vous invitent à aller regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 23, la note F, que malheureusement vous n'avez pas, parce que je n'ai pas pu la mettre sur le papier, mais qui vous permet de comparer ces deux généalogies. Et déjà, vous pouvez dire à votre auditoire que Matthieu, quand il écrit le livre de la Genèse de Jésus-Christ, se réfère au livre de la Genèse, à la descendance d'Adam, et que, au fond, Jésus-Christ sera le nouvel Adam. Vous comprenez la démonstration ? Donc, simplement en apprenant à lire nos Bibles, et lire nos Bibles telles qu'elles sont données, enfin telles qu'elles nous sont offertes par les gens qui ont travaillé, ce sont des équipes œcuméniques qui ont travaillé sur la Tobe, mais la nouvelle Bible seconde, c'est exactement pareil, nous permettent de rentrer dans la compréhension de la construction du récit. Et comprendre la construction du récit, loin de nous éloigner de son sens, nous rapproche du sens que Matthieu voulait donner. Et enfin, on comprend comment ce qu'il a voulu dire. Alors ça, c'est juste une toute petite chose. Je laisse la parole à Marc, qui rebondit. On s'est dit qu'on allait se lancer la balle, donc je ne sais pas comment tu vas rebondir sur ça. Mais
peut-être une comparaison entre la Tobe et ce qu'on appelle vulgairement la NBS. Tobe, c'est traduction œcuménique de la Bible. NBS, c'est Nouvelle Bible Seconde. Une grande différence, en particulier dans les notes, c'est que la Tobe se permet des interprétations, de mettre des commentaires dans les notes, ce que ne se permettent pas des Bibles protestantes, en fait, c'est-à-dire la Nouvelle Bible Seconde. Donc, là, pour cette question-là, ils mettent effectivement voir Genèse 5.1, parce que c'est factuel. C'est une citation littérale d'un passage de l'Ancien Testament, donc ils le mettent. Mais ils se permettent des prédications, en fait, qui glissent dans les notes. Et ils induisent finalement un biais d'interprétation qui est proposé comme étant, j'allais dire, une vérité scientifique ou factuelle, ce qu'il n'est pas, évidemment. Donc, dans des notes comme celle de la Tobe, il faut beaucoup se méfier entre ce qui est scientifique et ce qui est une interprétation proposée, qui est la subjectivité de ceux qui ont composé ça, ce qui est toujours très discutable. En particulier, quand il y a une difficulté et qu'ils disent « voilà, on explique comme ça », ou là, il faut faire attention. Parce que s'il y a une difficulté, en général, c'est qu'effectivement, ça ouvre un questionnement et que lui donner une réponse, bah, c'est déjà prendre la place du lecteur, en fait. Ce qui, normalement, ne devrait pas... Enfin, je veux dire, voilà, c'est pour ça que là, il y a une différence fondamentale, je crois, qui est peut-être la seule différence entre une lecture protestante et une lecture catholique. C'est qu'une lecture catholique, c'est le cas, en fait, de la Taube, il y a une interprétation qui est celle de l'Église, celle de la tradition. Une interprétation protestante, bah, quand on ne sait pas, on dit, bah, écoutez, débrouillez-vous. Il y a une question, et bah, écoutez, apportez votre réponse. Et ça, je crois que c'est effectivement une différence fondamentale. Il n'y a pas « the lecture », l'interprétation avec un grand « i » qui serait celle de la tradition et celle qui serait transcendante. Alors ensuite... Par rapport à tes grands-mères.
Dans la foi.
Livre des origines, livre de la genèse de Jésus-Christ. Est-ce que ça parle vraiment de la généalogie, l'arbre généalogique du Christ? En fait, non. La preuve, c'est que quand on compare effectivement Matthieu et Luc, bon, il y a une énorme différence, hein. On ne trouve que, je crois, que 17 noms qui sont présents dans les 42 de la généalogie de Matthieu qu'on retrouve chez Luc. Et même des différences fondamentales. Par exemple, la généalogie fils de David, c'est Salomon, et dans l'autre fils de David, c'est Nathan. Donc la généalogie, elle parle par un autre fils de David. Et allez hop, c'est pas si grave, c'est pas la question. Et donc, il y a une autre chose intéressante, c'est que Matthieu, par exemple, il explique à la fin, il explique dans sa généalogie que le nom, c'est au verset 17, hein, donc c'est là en bas de, un peu dans le bas de la première colonne. Matthieu, au verset 17, le nombre total de générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Bon, quand on compte, c'est pas de tout ça en fait. C'est très compliqué. En tout cas, au total, on n'en trouve que 41 et pas 3 fois 14, 42. Donc, il ne faut pas me faire croire que Matthieu ne savait pas compter. Quoi ?
Il y a eu un nom à la naissance.
Non, mais donc, je ne sais pas si les notes de la Taube en parlent.
Alors,
en tout cas,
alors,
c'est une question que
je vais te contredire.
Oui, vas-y.
Je te contredis parce que ben, la lecture œcuménique de la Taube parle justement de ces 14. Et vous avez... les trois interprétations, donc pas une interprétation,
mais trois possibles.
Donc, je vous renvoie, peut-être que ce qui est important aussi, c'est que vous situiez la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, ouvre l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 1, verset 1, d'accord ? La généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 3, c'est après le baptême de Jésus. Rien que ça, vous voyez, il y a un abîme qui s'ouvre. Pourquoi un évangéliste met cette généalogie juste avant la naissance et l'annonce à Joseph et la naissance, et pourquoi l'autre le met au moment du baptême? On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est très intéressant de constater que les places sont différentes. Alors maintenant, évidemment, pour Matthieu... Le verset 17 nous dit « Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. » Parce que l'histoire d'Israël est scandée par ces grandes étapes. Ce sont les grandes étapes de l'histoire d'Israël, pour Matthieu. Bon, alors...
Donc, attends, on pourrait revenir sur les interprétations possibles, mais...
Non, attends, laisse-moi.
Non, mais j'étais en cours d'une démonstration
dès
quand tu m'as interrompu.
Dès qu'on met des protestants devant un texte, alors on dit les Juifs, c'est deux...
Bon, vas-y. Oui, donc, si tu veux, c'est que... Effectivement, visiblement, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de cette difficulté, on sent bien que là, il s'agit de sens et pas de sens littéral. Vous voyez ce que je veux dire ? Les généalogies divergent. Il insiste sur le nombre de générations, alors que c'est très discutable par rapport à la littéralité de cette histoire. Et donc, on sent bien que, si vous voulez, cette histoire... Luc, il y a 77 générations jusqu'à Adam. Eh bien, ces chiffres 42... ces chiffres 3 fois 14, ce chiffre 77, les généalogies, scandés par Abraham, David et les déportations à Babylone, tout ça, on sent bien que ce n'est pas de la littéralité qui compte, c'est du sens. Et donc, la question de ces généalogies, il ne s'agit pas de s'attacher vraiment à la lettre de savoir quel est l'arbre généalogique de Jésus, c'est des prédications. Et donc, la question, c'est de charger de sens cette venue de Jésus-Christ. Et si c'est important de charger de sens la venue de Jésus-Christ, c'est pour nous parler du salut qui est donné en Jésus-Christ. Et donc, Genèse, livre des Genèse, de la Genèse, de l'origine de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est déjà une confession de foi. Christ, ce n'est pas son nom, c'est Jésus en tant que Christ, c'est-à-dire en tant que source de salut. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que va arriver dans notre propre histoire le salut qui est donné en cet homme Jésus. Et donc, c'est une prédication. Ça ouvre à savoir, vous allez lire ce livre, en quoi est-ce que ce que je vais vous raconter vous concerne? En quoi est-ce que le salut vous rejoint à travers ça? Et c'est ça dont parlent ces livres. Ensuite, il faut s'ouvrir au sens, essayer de comprendre comment est-ce que ça peut intervenir, comment est-ce qu'on va le comprendre pour notre propre histoire. Mais ça invite d'emblée, je pense, à une lecture spirituelle. En quoi est-ce que ce salut va naître, émerger dans notre propre existence, dans notre histoire, celle de notre famille, celle de notre peuple, celle de l'humanité? Et ça s'inscrit dans une grande histoire de l'humanité et dans l'histoire de chaque personne, du lecteur qui s'ouvre à ça.
Oui.
Mais le terme de Christ n'a rien à voir avec la généalogie. Pour moi, le terme de Christ, c'est depuis qu'il a 30 ans.
Le terme de Christ, ça veut dire que il est source. Bon, là, il y a une majuscule, mais dans le grec, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. Mais en gros, Jésus, le Christ, eh bien, c'est une fonction. Hein. C'est la fonction, il est sauveur de toute l'humanité, de tous les peuples et de toutes les générations. Donc, c'est la question, c'est savoir en quoi est-ce que, dans ce que je vais vous raconter, nous dit Luc, nous dit Matthieu, Marc et Jean, c'est pareil. Tous commencent par l'idée de soit Genèse de Jésus comme Christ, l'autre disent au commencement, commencement de l'évangile du Christ. Ou alors Jean, c'est au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc toujours il parle d'un commencement, d'une genèse, de ce salut qui est donné en Jésus-Christ. Pour que nous, on s'ouvre à cette nouveauté de vie, qu'on s'ouvre à ce salut nouveau qui est donné par Dieu en cet homme Jésus. Ça ouvre à l'interprétation. Non, mais ça, oui, alors évidemment. Mais le fait, si vous voulez, que la littéralité ait du mal quand même à rentrer dans le texte, ça invite, à mon avis, vraiment à s'ouvrir au sens de ce qui est raconté, et non pas se limiter au côté factuel de la chose, au côté scientifique de la chose. Vous comprenez? Il n'y a pas 42 générations, ils disent qu'il y en a 42. Donc on se dit, mais pourquoi? Ça ouvre à un questionnement, ça ouvre à une interprétation possible, ça ouvre en se disant, il y a du sens qui est derrière. 42, c'est un chiffre rond, 77, c'est un chiffre rond, 14, 3 fois 14, ça a du sens tout ça. Et donc ça ouvre à de l'interprétation, à une recherche, à un questionnement pour savoir en quoi ce Jésus est source d'un salut universel. Et que ce salut puisse germer en nous, s'ouvrir en nous, apparaître en nous.
Oui, alors, bon, moi je suis beaucoup plus, disons, oui, je suis d'accord avec toi, ça c'est une interprétation. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que le texte dit, et ce que le texte veut nous dire, mais à travers ces chiffres qui sont choisis, et ces noms qui sont choisis. Alors si je peux terminer ce que j'avais commencé et vous lire la note de la TOP parce que je trouve qu'elle est extrêmement importante. Donc je vous l'ai mis, mais malheureusement vous n'avez pas la fin, donc je vais vous la lire ici. Plusieurs explications, donc je reprends là où tu m'as interrompu, sont proposées de ce chiffre 14.
Repris. Parce que tu m'avais interrompu avant quand même.
Mais tu me demandes ce que dit la TOP, tu me dis la TOP interprète, elle ne donne qu'une interprétation. Voilà que je te contredis parce qu'elle en propose trois.
Oui.
Et elle en propose trois à notre réflexion. Et je m'oppose aussi sur le fait que la traduction œcuménique de la Bible soit une version catholique. C'est une version œcuménique. Les protestants ont participé à cette version. Ils ont travaillé avec les catholiques et ils sont pas en train de nous dire ce que l'Église pense. Ils nous font aussi confiance. Je trouve que c'est une manière vraiment très caricaturale de présenter la tome. Bon, passons.
Alors, lequel des c'est Luc ou Matthieu ?
On est dans Matthieu. On est à la note D du verset 17. Plusieurs explications sont proposées de ce chiffre 14 repris par trois fois. Il serait 1. La somme de la valeur numérique des trois consonnes qui forment en hébreu le nom de David. D égale 4, V égale 6, d'où 4 plus 6 plus 4 égale 14. Peu importe ce que vous croyez sur les chiffres, ce qui est important, c'est que ça nous relie à ce que François Garaille nous disait le 17 décembre. Il est important que le Christ soit dans la lignée de David. Et ce que l'évangéliste Matthieu, comme l'évangéliste Luc, s'attache à faire, c'est à faire remonter Jésus dans la généalogie du fils de David, du Christ. D'accord ? Donc on peut dire, ben voilà, une manière de signifier l'appartenance du Christ à cette lignée davidique, c'est le chiffre 14. D'accord ? C'est une possibilité. Deuxième, selon les computes apocalyptiques de cette époque, Jésus vient au terme de la sixième semaine, 3 fois 14 égale 6 fois 7, de l'histoire sainte qui commence avec Abraham, c'est-à-dire à la plénitude des temps. Mais cette explication repose artificiellement sur le chiffre 7, qui n'est pas mentionné par Matthieu. D'accord ? C'est une autre possibilité. 3, plus simplement, et ça je pense que quand ils disent plus simplement, c'est l'interprétation qui fait référence. Matthieu, et là je me déporte vite, plus simplement, Matthieu a constaté que la généalogie transmise par Ruth, donc il faut que vous retourniez dans le livre de Ruth, 4, 18 à 22, reprise en 1 Chronique 2, 10 à 13, fournissait 10 noms depuis Pharès jusqu'à David. En y ajoutant le père de Pharès et les trois patriarches, cela faisait 14 depuis Abraham jusqu'à David. En reproduisant ce chiffre de base pour les deux autres périodes, quitte à omettre les noms des trois rois entre Joram et Ozias, Matthieu aurait ainsi trouvé un cadre biblique à sa généalogie. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut échapper à aucun lecteur qu'il s'agit d'une construction littéraire. Et c'est ça qui compte. Alors après, on peut peaufiner, affiner, qu'est-ce que veut dire cette construction littéraire ? La seule chose qu'on puisse dire avec certitude, c'est deux choses. La première, c'est que Matthieu installe Jésus dans la généalogie davidique, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est ça qui, de mon point de vue, est extraordinairement intéressant, ce sont les femmes qui sont présentes dans cette généalogie. Donc, ça, c'est une lecture que la lecture féministe, à partir des années 60, a remarqué et qui est passée complètement, l'exégèse a ignoré pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez retrouver les femmes, les cinq femmes qui sont dans la généalogie de Jésus ? Il y a Rahab. Avant Rahab, il y a Tamar. Après Rahab, il y a... Après Ruth, il y a... La femme du riz qui est... Bethsabée, voilà. Et puis, enfin, vous avez Marie. Donc, vous avez cinq femmes dans la généalogie du Christ. Ce qui est extraordinaire, puisque vous savez que à cette époque et dans ce pays, la généalogie, c'est paternelle. Hein ? C'est fils de David, fils de Salomon, fils de, etc., mais fils de femme, ça ne se fait pas. Donc, que viennent faire, par exemple, ces femmes dans la généalogie de Jésus ? Alors, on peut, comme Marc le fait très bien, on peut chercher des interprétations. Alors, j'aimerais simplement vous lire l'interprétation d'un agnostique total, mais qui lit la Bible tous les jours. Et il s'agit d'Éric et Lucas, et vous allez pouvoir goûter la qualité de l'interprétation de cet homme qui s'attache aux femmes présentes dans la généalogie de Jésus. C'est clair ? Catherine, tu me regardes avec une... Tu écoutes ? Mais tu suis jusque-là. Alors là, je vous fais simplement une lecture parce que je ne résiste pas aussi à la langue. Alors, c'est de l'italien traduit. En italien, ce serait beaucoup plus beau. Mais vous allez tout de suite vous rendre compte. Il fait, dans Les Saintes du Scandale, la biographie de ces cinq femmes. La première, écrit-il, se vêtit en prostituée pour s'offrir à l'homme désiré. Donc, si vous cherchez, si vous ne connaissez pas l'histoire de Tamar, vous avez ici le résumé qu'en fait Herri de Lucca. Pour connaître l'histoire de Tamar, vous allez chercher dans le livre de la Genèse au chapitre 38 les versets 29 à 30, mais encore plus, qui vous raconte l'histoire de Tamar et de Judas. Voilà la manière dont Herri de Lucca résume. La première se vêtit en prostituée pour s'offrir à l'homme désiré. La deuxième était prostituée de profession et trahit son peuple. De qui s'agit-il ? Rahab. La troisième se glissa la nuit sous les couvertures d'un riche veuf et se fit épouser. C'est qui ? Ruth, bien sûr. La quatrième fut adultère. Elle trahit son mari qui fit tuer son amant. Bethsabée. La dernière tomba enceinte avant ses noces et l'enfant n'était pas de son époux. C'est qui ? Marie. Je continue. C'est par ces cinq femmes que passe l'histoire la plus ambitieuse du monde, celle du monothéisme et du Messie, Machia, littéralement « oint d'huile sainte ». C'est ça que veut dire Messie, Christ, « oint », c'est le « oint ». C'était les prêtres, les prophètes et les rois étaient « oint ». Ben voilà, le Messie, c'est celui qui est « oint ». Bon. « Je préfère, écrit Herri de Lucca, trempé et ruisselant, car on versait sur la tête l'huile sainte dont on avait rempli une corne vide et le liquide coulait des cheveux tout mouillés jusqu'à terre. Ce n'était pas un onguent de surface, mais un imprégnant. Le Nouveau Testament commence par une liste de noms de générations, d'Abraham à Yeshu, Jésus. Le christianisme écrit selon Matthieu fait le lien entre la nouvelle annonce et l'ancienne, inscrivant Jésus dans l'axe héréditaire des patriarches et dans la descendance de David, souche de Messie. Il n'existe pas une divinité de l'Ancien Testament et une divinité du Nouveau Testament. Le protagoniste n'a pas une double personnalité et le livre appelé Bible n'est pas bithéiste. Comprenez ? Ça veut dire que l'origine du Nouveau Testament, c'est l'Ancien. Et si Jésus est fils de quelqu'un, c'est qu'il est fils d'Israël. Matthieu commence sa liste par Abraham, pas avant, alors que Luc commencera par Adam. Abraham est le premier circoncis. Il accomplit cet acte en signe d'alliance avec la divinité. Herri de Lucca appelle toujours Dieu la divinité. Matthieu le place au début pour souligner le détail physique commun entre lui et Jésus, fils du pacte, circoncis le huitième jour, comme tous les mâles hébreux. Il resitue Jésus dans son appartenance au peuple juif. Matthieu fait le compte des générations entre Abraham et Jésus, 42. C'est un nombre intentionnel. L'évangile de Luc fournit lui aussi une liste de noms de Jésus jusqu'à Adam. Entre Jésus et Abraham, il en compte plus. Donc Matthieu veut qu'elle soit 42. Pourquoi ? Parce que les étapes du voyage d'Israël sur le chemin vers la liberté et la terre promise, du camp de base de Ramsès jusqu'à la plaine de Jéricho, sont au nombre de 42. Voilà. Matthieu nous signifie que Jésus est EST, que Jésus est la terre promise, une arrivée du long pèlerinage d'Israël dans l'histoire, sa destination finale. Car tel doit être le Messie, une ligne d'arrivée. Vous voyez ? Ça, c'est simplement à partir d'une descendance et du nom de cinq femmes. Alors, je continue, rassurez-vous, je vous donne juste des exemples parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc, à plus forte raison et avec plus de valeur dans la liste d'ouverture de l'évangile de Matthieu, se détachent cinq noms de femmes plantées dans une descendance masculine. Que font-ils là ? À quoi servent-ils ? Voici leur identité : Tamar, la cananéenne, Rahab de Jéricho, Ruth la Moabite, Bethsabée, la femme juive, qui épouse en première noce Uri le Hittite et qui se fera assassiner par David. Enfin, Myriam, Marie, mère de Jésus. dans la souche familiale hébraïque la plus précieuse, celle du Messie, se trouvent insérées et soulignées des femmes étrangères. Elles appartiennent à des peuples présents sur la terre promise avant la conquête et jamais déracinés. Et voici que dans la précieuse descendance du Messie sont greffées des femmes et des girons de peuples différents. Avec leur transfusion de sang mêlé, l'histoire hébraïque éloigne d'elle le sceptre et le spectre de la pureté du sang, du pédigré. Même le Messie est un métis. C'est une leçon grandiose, peu connue et peu répétée. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce commentaire, c'est que si vous le lisez à la lumière de l'évangile de Matthieu, où on voit que Jésus le Juif, rejeté par les siens, s'ouvre aux nations, et que le premier à le reconnaître, Messie crucifié, c'est un soldat romain, vous voyez qu'au moment où il écrit son évangile, il est déjà tout à fait conscient que l'ouverture d'Israël aux nations a été réalisée en Jésus le Christ. Et pour dire que l'ouverture aux nations est réalisée, eh ben, il met les femmes étrangères, les prostituées que Jésus a fréquentées au cours de sa vie, les femmes de mauvaise vie, les femmes syrophéniciennes, etc., etc. On ne peut pas lire une page de l'Évangile sans la lire à la lumière de la totalité du récit. Et si on lit l'Évangile de cette manière-là, on trouve des indices qui nous renvoient aux différents épisodes de la vie de Jésus, qui va être caractérisé par, justement, ce Juif qui va ouvrir l'Alliance de manière universelle. Vous comprenez, c'est clair ou pas? Voilà. Donc, ça, c'est ce que Matthieu écrit au sommaire de son évangile. Voilà. Et cette généalogie, dans cette généalogie, vous avez déjà tout l'ADN, toute l'identité spirituelle de Jésus. Hébreu, mais ouvert déjà par ses femmes aux nations. Voilà.
Alors, l'ouverture aux nations, c'était de toute façon promis à Abraham. Donc, pour être Messie, il fallait que cette ouverture aux nations, de toute façon. Ça fait partie de la bénédiction donnée à Abraham, et donc ça devait se réaliser dans le Messie, et effectivement, dans la généalogie, un peu trouble, on le voit, il y a une autre curiosité, ou plutôt, puisque tu parlais de Marie comme la cinquième femme, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, elle a donc Jésus de l'Esprit-Saint. Et c'est la même expression que Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Et donc, ce qui est curieux, c'est que l'Esprit-Saint est présenté ici comme la femme, en fait. C'est pas si étonnant que ça, parce que Esprit-Saint, en français, ça paraît masculin, mais en hébreu, c'est la rouard de Dieu, c'est féminin. Et donc, Marie, ici, elle n'est pas fécondée par l'Esprit-Saint plus chez Luc, en fait, mais chez Matthieu. On sent chez Matthieu une réticence à ce que Jésus soit fait un demi-dieu, ce qui semble peut-être plus familier à Luc, mais pour un hébreu, c'est inaudible, en fait, d'avoir ainsi Zeus qui vient, féconder une fille humaine, comme beaucoup il l'a fait dans son histoire. Matthieu résiste beaucoup à cela, en donnant ici au rôle de l'Esprit-Saint, non pas un rôle masculin, mais plutôt féminin, en fait. Ce qui est vraiment très hébreu. L'autre curiosité, l'ambiguïté reste de savoir, est-ce que Marie, elle a été effectivement fécondée par l'Esprit-Saint, donc avec une fécondation miraculeuse, ou si l'enfant qu'elle a eu par ailleurs d'une façon pas tout à fait cachère, malgré tout, l'Esprit-Saint invite à repartir de cette situation de fait pour en faire quelque chose. Matthieu garde l'ambiguïté là-dessus, et effectivement, je crois qu'on peut s'ouvrir à cette ambiguïté sans aucun problème.
Alors, attendez.
Là, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est Joseph qui a la première place.
Prenons, si vous le voulez bien, la comparaison de l'annonce, parce que je trouve que c'est aussi très intéressant, de l'annonce de la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Alors si vous voulez bien, si quelqu'un veut bien lire dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 18 jusque au verset, jusqu'à la fin du verset 25. Et puis, quelqu'un d'autre lira l'annonce de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc à partir du verset 26 et jusqu'au verset 38. Est-ce que je peux... Lorraine est... Oui. Alors, eh bien, d'où l'importance de lire. Alors, tu veux bien lire ?
Ah non, ça, c'est l'éditeur, oui.
C'est l'éditeur.
C'est pas dans le texte.
C'est pas le texte. Non, alors, oui, alors, merci. Il y a une chose que vous devez peut-être, que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les titres et les intertitres n'existent pas dans le Nouveau Testament grec. Ce sont des choix des traducteurs, des éditeurs. Quand vous dites l'annonce à Joseph, c'est l'éditeur qui, pour vous simplifier la lecture, vous explique que cette péricope va vous raconter ça. Mais ce n'est pas dans le manuscrit. Et c'est une sacrée interprétation.
Alors, le titre, il y est par contre. Selon Matthieu, ça y est.
Oui.
Kata Matayon, ça veut dire selon Matthieu.
Voilà.
Et ça, effectivement, le titre du bouquin, déjà. Oui, ça, c'est l'intertitre. Mais le titre, selon Matthieu, effectivement, c'est dans le texte. Et ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas tombé du ciel. C'est le témoignage de Monsieur Matthieu, quand même. Ce qui n'est pas rien.
De Jésus-Christ. Parce que, juste une parenthèse, c'est ça où aussi, les gens pensent que c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Ce n'est pas du tout l'histoire de la naissance de Jésus. C'est, oui, c'est justement très intéressant. C'est l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Du Christ en Jésus. Ouais. Merci. Et Lorraine, tu nous lis dans l'évangile de Luc ?
Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de
Oui, tu peux, tu comptes.
Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois. Elle, on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta.
Voilà, alors... Que immédiatement, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous découvrez, quelles sont les remarques immédiates que vous pouvez faire? Sylvia. Non, pardon.
Joseph, qui est de la maison de David.
Voilà. Alors, Joseph, qui est de la maison de David, qui est présent dans l'évangile de Matthieu, et qui est, dans l'évangile de Luc, totalement ou presque effacé. Comment vous interprétez ça? Par exemple, pourquoi pas? Mais bravo, mais c'est ça. Il faut se jeter dans le bain de l'interprétation, bien sûr.
Jésus n'est pas un homme, mais c'est autre chose.
Ça, c'est dans Luc. Oui. Mais pourquoi dans un évangile, l'ange parle aux oreilles de Joseph et puis dans l'autre aux oreilles de Marie? Oui, voilà, vous voyez, là on est dans le champ de l'interprétation et c'est absolument passionnant parce que en fait on lit la Bible à travers notre histoire, à travers les textes, etc. etc. Je vous fais juste deux petites observations. La première, c'est une formulation extraordinairement curieuse, étrange. C'est Matthieu 1, 16. Quand vous lisez une phrase comme « Jacob » engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Vous voyez cette espèce de cette espèce de circonvolution là. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ.
Donc ça rattache
Jésus à la généalogie de Joseph. Tout à fait. Alors ça, chez les deux, on est d'accord. Ce qui est très intéressant dans l'évangile de Matthieu, c'est que peut-être qu'il y a aussi une chose que vous devez savoir, il y a quelque chose qui intrigue souverainement les exégètes, c'est que, et sur lesquels on a des interprétations différentes, c'est que dans les évangiles, jamais Jésus n'est appelé fils de Joseph. Sauf une fois pour s'en moquer, je crois. Et encore, je ne suis même pas sûr, il faudrait vraiment vérifier.
Mais dans Jean, ça arrive.
C'est dans Jean une fois. Hein.
Fils du charpentier,
exactement. Tout le reste du temps, c'est fils de Marie. Ce qui n'arrive encore une fois jamais à cette époque, on n'appelle jamais quelqu'un fils de sa mère. C'est pas possible. Bon. Et là, en fait, ce que Matthieu montre, c'est spirituellement extraordinairement fécond. C'est le rôle considérable de Joseph dans la protection de cette femme qui s'est retrouvée enceinte. Et tout le travail de la grâce s'opère par Joseph qui protège Marie de la mort. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, comme dans beaucoup de pays actuellement, la situation de Marie, c'est la lapidation et c'est la mort. Et là, c'est l'œuvre de salut du Père Joseph, qui est clairement affirmée par l'évangéliste. Et c'est extraordinaire parce que, enfin, alors après, on peut effectivement faire toute une prédication et 1000 prédications là-dessus, sur le rôle du Père, par exemple. Enfin, il y a 1000 choses à dire là-dessus. Mais c'est évident que pour Matthieu veut vraiment mettre l'accent là-dessus, sur cette protection inconditionnelle et sur le fait que l'œuvre de la grâce, c'est moins la naissance virginale de Jésus que le fait que Joseph l'ait permis.
Et puis ce qui est étonnant, c'est qu'il y a marqué Joseph qui était un homme juste.
Oui. Oui.
Il ne voulait pas faire ce que propose la loi finalement.
Oui, c'est ça.
Et donc c'est subversif. Il n'y a pas marqué, c'était un type qui se fichait un peu de la loi juive. Au contraire, il y a marqué c'est un homme juste. Et justement, il ne voulait pas que Marie soit punie pour sa faute, comme le prévoit la loi. Donc ça donne une autre idée de la justice, qui est d'abord l'amour, le respect, même du coupable. Déjà, il y a de l'évangile qui frémit, là. Et sauf que ça va au stade d'après, ne pas condamner le coupable, mais il y a même encore plus, le prendre, comme tu disais, positivement pour l'aider. Donc vous voyez, il y a une sorte de gradation, d'abord par son cœur lui-même. C'était sa disposition, c'est la justice, c'est d'abord l'amour, le respect de l'autre. Et sa réflexion, sa première réflexion, c'est ce qui est marqué, plus l'ange du Seigneur, pour traduire dans notre vie, on pourrait dire, une expérience spirituelle, quelque chose qui, dans la prière, vient enrichir notre conscience, lui donne d'aller plus loin. Et là, dans ces quelques mots, on sent déjà quelque chose de Joseph, de sa nature, déjà un peu subversive, déjà un peu prophétique, et c'est encore enrichi par un supplément que lui apporte l'expérience mystique. Donc il y a l'intelligence plus la mystique. Mais peut-être là, il y a quelque chose de subversif, bien sûr. Hein. Mais on remarque que dans cette histoire, l'annonciation à Joseph, il n'a pas besoin, justement, Jésus, voyez, il n'a pas besoin d'être conçu. Il est déjà conçu. Et on nous appelle à quoi, finalement ? À reconnaître que bien que ce soit caché et que ça ne vienne pas de nous, il y a quelque chose qui est de l'ordre du salut de Dieu, quelque chose qui est l'ordre de l'enfant de Dieu qui est déjà présent et qu'on nous propose d'adopter, de reconnaître, d'aimer, de protéger et d'accompagner. Alors que dans Luc, on est identifié à Marie et on nous appelle avec notre oui à la parole de Dieu, oui à Dieu, à participer à cette fécondation, finalement. Et donc, vous voyez, il y a là, soit nous identifions à Joseph, soit nous identifions à Marie, il y a deux propositions qui sont assez différentes dans notre place dans le cheminement du salut dans notre existence. Avec Matthieu, c'est quand même beaucoup plus la grâce. On a à reconnaître qu'en nous et dans l'autre, il y a déjà du christique. Peut-être bien caché, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'image de Dieu qui est présente, quelque chose qui est de l'ordre du divin en moi et puis dans la personne qui est en face de moi. Alors que dans Luc, on nous appelle à nous convertir pour nous laisser féconder par l'Esprit de Dieu. Peut-être que ça, Luc, est peut-être un peu plus dans la pensée grecque, avec peut-être des histoires de demi-dieux, peut-être aussi avec les stoïciens, avec le logos spermaticos, la parole, le divin qui vient féconder la nature, finalement. Hein. Vous voyez, il y a quand même là une vraie différence dans le cheminement du salut, dans ce qui nous est proposé. Matthieu insiste plus sur la grâce et Luc plus sur la conversion. Après, il faut les deux, sans doute. Mais là, il y a quelque chose, à mon avis, qui est assez différent dans la conception du salut dans notre existence.
Et la phrase, si on reprend Matthieu, Jacob engendre Joseph et épouse Marie, de laquelle est né Jésus. Et c'est pas, on ne dit pas avec qui.
Ah oui, oui. Et oui.
Ça, c'est
et à ce moment-là, il y a un passif. Et le passif, c'est vrai quand même que le passif, dans la langue de la Bible, quand on n'indique pas le sujet, en général, c'est que Dieu est sous-entendu. Quand même. En général, c'est comme ça. On dit que c'est un passif théologique. C'est-à-dire c'est un passif dont le sujet n'est pas indiqué. Ça suppose que Dieu est le sujet de ce verbe au passif. C'est souvent le cas. Ici, est-ce que c'est le cas ou pas? C'est discuté. Ça reste ouvert. On ne sait pas d'où vient la conception de Jésus dans Marie. On nous appelle, malgré l'histoire trouble, malgré ce qui nous est inconnu, eh bien, d'adopter ça, d'adopter cet enfant et de le prendre pour nôtre.
Je vous fais juste remarquer aussi une formulation absolument magnifique dans la généalogie de Jésus chez Luc, au verset 23. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph. C'est des cancans. Il était fils, croyait-on, de Joseph. Je vous fais aussi observer que, à ma connaissance, je crois que la généalogie de Luc ne contient que des hommes. En revanche, son évangile est ouvert avec des femmes, avec Élisabeth et avec Marie. Donc vous voyez, les femmes qu'on trouve, que Matthieu place dans la généalogie, on les trouve dans l'évangile de Luc, dans celles qui ont porté, d'une part Jean-Baptiste, d'autre part Jésus-Christ. Et je vous rappelle le rapport, l'ange commence par parler à Zacharie, Zacharie qui veut rien entendre, rien comprendre, donc finalement qui est muet parce qu'il n'y croit pas, et Élisabeth va tomber enceinte, et Marie va tomber enceinte, donc c'est une histoire de femmes avec lesquelles Dieu est en dialogue, ou construit finalement le Messie qui est là. Donc elles sont absentes de la généalogie, mais on les retrouve dans le cœur de l'Évangile.
C'est ce lien avec Jean-Baptiste
qui fait que
la généalogie
est près de la terre. Alors, le début de l'Évangile de Luc, c'est absolument passionnant. C'est une histoire tissée entre la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Voilà. Et la généalogie se trouve... Alors, la fête de l'Épiphanie... Vous savez, en fait, l'Épiphanie, le 6 janvier, en pensant que c'est les mages. Mais c'est pas simplement ça, ou c'est pas que ça. C'est surtout la fête de la manifestation que Jésus est Dieu. Et cette fête-là, c'est le baptême.
Avec le ciel qui s'ouvre.
Avec le ciel qui s'ouvre, et là, et voilà. Donc, pour nous... là où il est évident où pour que le ministère du Christ commence, c'est au moment du baptême. Avant le baptême, il n'y a rien.
Mais surtout, c'est que dans ce passage, il y a deux grandes séries de manuscrits de l'Évangile. Il y a, on dit, le texte occidental et puis le texte oriental. Dans le texte occidental, c'est surtout ce qu'on appelle le codex de Bèze, de Théodore de Bèze, qu'on connaît un peu ici. Et effectivement, c'est un manuscrit qu'on lui avait donné, qu'on a retrouvé et qui est gardé, en fait. Et c'est probablement un texte qui a des variantes qui sont assez importantes et qui sont probablement un état assez ancien du texte. Et donc, dans la phrase qui est dite par Dieu, en fait, au cours du baptême de Jésus, dans l'Évangile selon Luc, jusqu'à dans le texte occidental, la phrase dit celui-ci donc est mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré en fait. C'est ce que t'as dans
c'est ça, ce qu'on c'est a
dans
tobe.
C'est ce qu'a mis la tobe. Où est-ce que c'est ce verset? C'est après la généalogie de Luc. On l'a pas ou on l'a ici?
C'est le 3:22. Tu es mon
22.
Fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré.
Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Les autres textes, il y a marqué « tu es l'objet de mon affection » ou « je t'ai choisi », quelque chose comme ça. Mais donc, tu as raison, c'est pour ça qu'à l'Épiphanie, avant que la fête de Noël soit inventée, qui cherche à évangéliser le solstice d'hiver, en fait, et les fêtes qui étaient greffées autour, on fêtait l'incarnation, c'est-à-dire la naissance de Jésus, à l'Épiphanie, le 6 janvier, c'est-à-dire en même temps que son baptême, à cause de cette phrase-là. Alors, ce qui est quand même subversif et curieux, c'est qu'ici, aujourd'hui, je t'ai engendré avec un verbe au parfait. C'est étonnant parce que l'autre explication qui est donnée dans la généalogie de Jésus dans l'Évangile selon Luc, c'est qu'il est fils d'Adam, donc fils de Dieu. Donc il est fils de Dieu de différentes façons. Il est fils de Dieu parce qu'il est fils d'Adam, effectivement, ça veut dire Dieu est source de vie, donc il nous a créés, il nous a pétris de la poussière du sol, et c'est un miracle incroyable qu'avec des atomes tout bêtes, nous soyons vivants et capables d'aimer. C'est un miracle absolument hallucinant. Et on peut y reconnaître la trace de l'action de Dieu. La deuxième explication, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Le oui à la parole de Dieu, on se laisse féconder dans notre vie biologique, psychique, culturelle. On se laisse féconder par la dimension mystique, par l'Esprit Saint. Et du coup, va naître en nous, comme dans Marie, qui est proposée ici à l'exemple, comme exemple type même du croyant, on se laisse féconder par ce oui à Dieu pour que quelqu'un qui est de l'ordre du Christ puisse naître en nous-mêmes, un nous christique, c'est-à-dire un nous capable d'être prophète, prêtre et roi, dit-on en cours d'un baptême catholique comme protestant, orthodoxe aussi, je pense. Donc, c'est la deuxième façon d'être enfant de Dieu, par ce oui à Dieu, par la conversion, par le oui à la parole de Dieu, à la mystique. Et la troisième façon, ben c'est Dieu qui nous engendre, comme à l'Épiphanie. Et bon, alors lui, c'est à la perfection, mais nous, c'est progressivement. Donc on pourrait dire, vous voyez, il y a différentes façons d'être enfant de Dieu, et il faut peut-être combiner un peu toutes celles-là, finalement, dans les différentes dimensions de notre être.
CQFD.
Voilà. Mais non, ça montre la richesse, la complexité de ces notions, si vous voulez.
Enfin, ce qui est très important pour nous ce soir, c'est de vous montrer que, en fait, cette lecture et cet attachement au texte est fondamental parce que sans essayer de le comprendre, on peut pas commencer. Enfin, on peut croire, bien sûr, mais c'est ça ouvre des perspectives tellement plus belles de comprendre encore comment et pourquoi on écrit ça et quel est le champ de sens qui peut s'ouvrir quand on a accès à ça. Alors voilà, vous avez. J'espère que ce n'était pas trop compliqué ni trop ardu. On a essayé d'être le plus simple possible, mais on est très attaché à cette lecture parce que pour nous, loin de nous éloigner de la foi, elle approfondit et elle augmente en nous encore la foi. Et je crois qu'on ne se lassera jamais de revenir à ces textes parce que, au fond, la vérité, c'est qu'on ne les connaît pas. Et que plus on les lit, plus on repousse peut-être les limites de la connaissance, mais plus on se dit que leur sens ultime nous échappe. C'est la même chose en science.
Oui, mais est-ce qu'on peut dire que ces deux évangiles sont contradictoires ?
Mais pas du tout.
Non,
pas du tout. Non, non, absolument pas. Non, non. Oui. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on n'est pas qu'un évangile, qu'on en est quatre.
Non, ça, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est passionnant. Le fait qu'on ait quatre évangiles, c'est un miracle. En fait, qu'on ait cette source plurielle, ces témoignages pluriels, et que ça soit à chacun de nous de faire la synthèse dans notre, là où on en est dans notre cheminement de vie et de foi.
Moi, je conçois cet ange qui s'adresse aux deux à la fois.
Oui, c'est... Oui.
Alors il y a ça, mais il y a aussi, à la fois, il y a quelque chose en nous qui est déjà divin et qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on adopte, et pour poursuivre notre cheminement, notre genèse, on doit s'ouvrir par un oui à Dieu sans cesse plus, si vous voulez. Donc on peut faire la synthèse dans notre propre existence et de se reconnaître comme déjà ayant une part divine en nous, et puis le voisin en face aussi. Mais en même temps, on a encore à poursuivre ce cheminement et en s'ouvrant encore plus. Donc on peut lire les deux en même temps et en faire notre propre synthèse.
Valérie ?
J'en reviens juste, ça me fait rire, je trouve qu'il y a un humour assez... Par rapport à la même vie de Jésus, ça commence donc. Jésus, à ses débuts, avait engendré son enfant. Il était fils
il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Lévi, fils de Matthat, fils de Lévi. Donc, c'est ce croyait-on, et en fait, on l'accroche quand même à toute la généalogie. Donc là, il y a une espèce d'ironie qui est absolument formidable, parce qu'on le rattache à toute une généalogie, donc juste ce petit bout d'avant.
Oui.
Et en même temps,
et puis... Et puis ça se termine par fils d'Adam, fils de Dieu, comme si on était tous.
Prochaine fois, c'est 11 février et on a quel genre de. Tu te souviens quel texte?
Je crois que c'est des récits de miracles ou de guérison. Récits de guérison, le 11 février. Voilà, c'est notre. Pardon? Voilà, qui ont soulevé le lièvre. C'est à cause d'elle tout ça. Sinon, ça aurait été beaucoup plus simple ce soir.
Merci beaucoup.
Voilà, merci pour votre participation. Et alors, au 11 février, pour de nouvelles aventures à travers les textes.